présentation. Pour votre information, la conférence est enregistrée. À présent, je donne la parole à Madame Véronique Bédague, Directrice Générale. Madame, c'est à vous.
Oui, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webcast. La plupart d'entre vous connaissent désormais tous ceux qui sont autour de la table. Donc ce soir, Géraldine Bopp, Domitille Vieille, Éric Lalécher, Jean-Claude Bassien et moi-même. Nadia est malheureusement poursuivie un peu par le destin. Elle a une infection et n'est pas avec nous ce soir. En courte intro, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'au fond, le T3 est complètement en ligne avec ce que nous vous avons dit en juillet, et évidemment parfaitement cohérent avec les axes stratégiques dont nous avons parlé lors de l'Investor Day. Alors d'abord, regardons un peu les chiffres clés. Sur l'activité commerciale logement, grosso modo, on est en ligne avec le S1 et ce qu'on vous a dit en juillet. Donc le marché au premier semestre, ça on l'a su, je crois que c'est en septembre, est en forte baisse depuis le début de l'année, hein, moins 21%, ce sont les chiffres de la FPI. On n'a pas encore les chiffres du troisième trimestre qu'on aura fin novembre. Dans ce cas, nos réservations ont fait moins 8% en volume, donc beaucoup mieux que le marché en ligne avec la dynamique du S1 où on était à moins 9%. Je pense que ce qu'il est intéressant de relever là-dessus, et je vous donnerai quelques slides qui vont vous illustrer un peu tout ça. On a, suite à ce qu'on vous a dit au mois de juillet, travaillé notre stratégie commerciale et basculé et tagué, comme diraient mes équipes, une partie de nos lancements en fait sur de la vente en bloc. Et puis évidemment, on a eu de bonnes ventes sur nos produits gérés, dont on vous a dit lors de l'Investor Day qu'ils étaient très demandés et qu'on allait les développer. Un tout petit point sur les investisseurs institutionnels. Donc, vous allez le voir, on a réorienté une partie de nos ventes sur ces investisseurs. Alors, au fond, pourquoi? Bien, d'une part, on a considéré que dans le moment, ces investisseurs nous permettaient de contribuer beaucoup à la maîtrise des risques. Évidemment, quand on a un investisseur institutionnel, bien, on n'a pas de produits de fin de chantier, de produits en vente à la fin du chantier. On peut lancer le chantier dès qu'on a signé les contrats de réservation. C'est bien meilleur sur le BFR sur lequel vous avez tous individuellement attiré mon attention lorsqu'on s'est vu au mois de septembre. Et puis, on s'est rendu compte aussi, et ça c'est aussi notre courbe d'apprentissage, qu'au cours du premier semestre, l'investisseur institutionnel est quelqu'un, parce qu'on a un peu de partenariat historique, parce qu'on les connaît bien, on peut renégocier les prix, ce qu'on a fait au premier semestre lorsque les prix de construction ont beaucoup augmenté. Donc notre choix dans le moment, c'est effectivement de réorienter une partie de notre production sur les investisseurs institutionnels. Et on vous a dit lors de l'Investor Day qu'au fond, cette capacité qu'on avait de faire du détail ou de la vente en bloc était au fond une force du groupe et une force de la taille. Et je pense qu'on le démontre là maintenant. Les prix de vente sont toujours orientés à la hausse sur l'ensemble des typologies de clientèle. Le chiffre d'affaires, eh bien écoutez, même trend qu'en S1. Stabilité du chiffre d'affaires groupe hors effet de base en immobilier entreprise au premier semestre 2021 et les services toujours dynamiques à plus 9%. Le backlog est toujours élevé à 2 années d'activité de promotion et le pipeline est stable à 21 milliards d'euros. Suite à l'aval vous l'avez vu là dans le CP de la semaine dernière, suite à l'aval de l'autorité de la concurrence, nous avons donc finalisé la semaine dernière l'acquisition du groupe Angelotti, dont nous avions déjà discuté en juillet. C'est un groupe familial avec un ADN d'aménageur et une activité de promoteur en fort développement. Leur positionnement géographique est très complémentaire à celui de Nexity, avec un fort ancrage en Occitanie et une excellente réputation locale. Leur activité d'aménagement facilite grandement l'obtention des permis de construire en aval. Je vous l'ai dit, hein, pour nous, c'est un peu l'Édouard Denis du Sud, avec une forte volonté de s'étendre et évidemment de le développer. Nous avons de grandes ambitions pour ce bel actif qui représente à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine. Alors, pour rappel, nous avons acquis une première tranche qui représente 55% du capital. L'acquisition sera consolidée dans nos comptes à compter du 1er novembre. L'impact de la prise de contrôle du groupe Angelotti est mesuré sur notre endettement net de fin d'année, environ 100 millions d'euros. Cela ne remet pas en cause nos prévisions et nous visons toujours un endettement net en fin d'année qui devrait rester dans le même ordre de grandeur que le 30 juin, ce que je vous avais déjà dit lors du call de juillet. Sur le marché général du logement, je pense qu'on ne va pas y passer beaucoup de temps. Vous connaissez les métriques. Des ventes de logements neufs qui sont en baisse, d'autant plus que le promoteur n'a pas accès à la vente en bloc, je pense. Des taux de crédit immobilier qui continuent à monter. Et vous le savez, le sujet, c'est bien sûr la montée des taux, mais c'est aussi, peut-être surtout, ce qui s'est passé en début d'année avec les obligations données aux banques par le Haut Conseil à la stabilité financière, puis le jeu du taux d'usure, mais tout ça, vous connaissez ça par cœur. Et on constate maintenant désormais une production des crédits immobiliers qui est en baisse dans les derniers mois à moins 11%. Et j'ai vu des statistiques récemment du Crédit Logement qui disaient que, grosso modo, c'était moins un tiers sur les 2 derniers mois. Donc vraiment, une production de crédits immobiliers qui est en train de se contracter. Je pense que même la Banque de France va être obligée de reconnaître que désormais, il y a une contraction de ces crédits. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, évidemment, le marché du logement neuf, alors ça, c'est le S1 à gauche, tel que le voit la SPI. Il y a eu moins 17, enfin, une rétractation des ventes au détail de 17% et du vente en bloc de moins 38%. Nous, dans le même temps, on fait moins 15% sur les ventes au détail et on fait plus 3% sur les ventes en bloc, à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, vraiment, au mois de juillet, on décide qu'on taille une partie de nos opérations pour de l'institutionnel et on vend à des institutionnels. Et donc, ce qui nous conduit à faire moins 8% par rapport à une année 2021 qui était, vous vous en souvenez, très élevée parce que c'était quand même une année post-Covid, à un moment où le marché fait moins 21%. Alors, le slide suivant, ça vous permet de voir un petit peu, au fond, à la fois ce qu'on fait dans le temps. Hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, notre caractéristique par rapport à certains de nos concurrents, c'est qu'on est extrêmement stable au cours du temps. On reste à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, même en 2020. Ce qui varie au cours du temps, c'est au fond ce qu'on laisse en vente au détail ou ce qu'on fait en vente en bloc. Et donc là, les graphiques montrent bien que par rapport aux années précédentes, alors c'est pas comparable à 2020 à ce stade, mais par rapport aux années précédentes, effectivement, on a au fin du troisième trimestre 43% de nos ventes qui ont été faites à des institutionnels. En valeur, les prix de vente au mètre carré continuent à augmenter de plus 2% sur la vente au détail et de plus 6% sur les ventes en bloc. Sur l'immobilier résident, donc ça, on a parlé de la demande maintenant, le sujet dont on a beaucoup parlé au premier semestre, qui est l'offre. On constate, mais c'est global sur le territoire, une progression des obtentions de permis de construire. On fait un tout petit peu mieux que le marché là, ce qui nous permet de reconstituer progressivement notre offre commerciale, hein, qui passe à 8 180 lots, qui est une belle remontée, mais qui reste quand même dans les bas historiques par rapport à ce que nous avons pu connaître dans le passé. Je vous rappelle également, parce que c'est vraiment très important dans le moment, notre offre est saine et peu risquée. Nous avons un stock de logements achevés qui est non vendu, qui est quasiment nul, parce qu'évidemment, c'est toujours le risque dans ces périodes-là. Donc le risque, pour le coup, est extrêmement maîtrisé et notre offre en cours de travaux est de l'ordre de 24% de ce que nous avons en main. Peut-être Jean-Claude, si tu veux bien, sur l'immobilier d'entreprise.
Oui, alors l'immobilier entreprise, comme on vous l'avait dit, OS1 est un marché qui est en bas de cycle et donc ça se voit dans notre niveau de prise de commande, 108 millions et une progression de chiffre d'affaires à moins 30% de période à période. Pour autant, nous avons un backlog à un niveau qui reste très élevé, 827 millions d'euros. Après l'intégration de ces prises de commandes et la diminution qui résulte de la conversion en chiffre d'affaires de l'avancement de projet. Et à moyen terme, nous avons un pipe, un potentiel qui lui aussi reste à un niveau très élevé de 2,1 milliards, ce qui donne donc une bonne visibilité pour les perspectives futures qui peuvent peut-être profiter à terme d'une dynamique de marché qui commence à avoir quelques signes. Pour ce qui concerne les activités de service, nous avons là aussi, de manière quasi identique, une carburation qui est la même qu'OS1, une progression de plus 9% de notre chiffre d'affaires par rapport à septembre 2021, Cette progression, elle vient, comme on l'avait déjà indiqué, principalement des métiers d'immobilier géré, résidences étudiantes et activités de coworking. Il faut, quand on regarde, et la slide là vous montre le split des différents métiers de service, gestion, exploitation, distribution, un commentaire rapide sur chacun de ces trois segments. Sur la gestion, nous avons une stabilité avec des éléments de compensation. Sur les métiers de gestion d'ADB, nous avons une dynamique favorable du nombre de lots qui continue à être en croissance nette positive. Nous constatons que les activités de syndic se maintiennent. L'activité de gérance performe relativement bien et nous avons des activités de transaction et de location dont les mouvements se compensent. La transaction bénéficie de notre modèle intégré qui fait que nous distribuons, nous vendons des produits qui sont les produits de nos clients de gestion locative qui sont aussi acheteurs par ailleurs de ces produits. Donc nous avons un cercle vertueux qui fonctionne très bien. La location, par contre, pâtit de l'arrêt du marché locatif que nous constatons, moins 12% sur le marché locatif. Et donc forcément, ça a un impact sur notre activité, comme vous le voyez, de l'ordre de 8%. Sur l'activité d'exploitation, très bonne dynamique de nos deux activités, étudiantes d'une part et morning. Étudiantes, parce que nous avons un taux de remplissage d'occupation très proche de 100%, qui tire donc le chiffre d'affaires. Et sur morning, nous bénéficions de deux effets. Le premier effet, c'est évidemment là aussi une amélioration de période à période du taux d'occupation de près de 14 points. Et donc forcément, ça contribue à la dynamique du chiffre d'affaires. Mais aussi, s'ajoute à cela l'élargissement du parc. On a fait progresser de près de 50% notre parc de période à période. Et donc, ces deux mouvements nous permettent d'avoir une croissance très forte sur morning, puisque ça se traduit par un doublement du chiffre d'affaires de période à période de morning. Enfin, pour ce qui concerne la distribution, le constat que nous pouvons faire sur la distribution, c'est que nous avons une activité qui bénéficie de sa position de leader dans son segment. D'abord, elle a une très bonne transformation de ses réservations en actes, premier élément favorable qui alimente la dynamique du chiffre d'affaires, plus 4%. Et puis, nous sommes aussi un point d'attention du marché, puisque les promoteurs qui ont besoin aujourd'hui de commercialiser et de transformer vite viennent au guichet de notre activité. Et donc, ça nous permet d'avoir une activité plus soutenue que la moyenne du marché, ce qui nous permet effectivement de pouvoir réaffirmer la force de notre activité de distribution.
Merci donc Claude. On va passer au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Nexity atteint 2,954 millions d'euros sur les 9 premiers mois. C'est un retrait de 4% par rapport aux 3,077 millions d'euros qu'on avait réalisés aux 9 mois 2021 sur le nouveau périmètre, c'est-à-dire sans les activités cédées au premier semestre 2021, Ceinture 21 et le groupe Égide 2010. L'année 2021 avait été marquée par une importante prise de commande au premier trimestre en immobilier d'entreprise avec l'immeuble Réoua à Saint-Ouen pour 124 millions d'euros. Si on retraite de cet effet de base, le chiffre d'affaires est stable. Sur l'activité courante, la baisse de l'immobilier résidentiel, moins 70 millions d'euros, avec le décalage à date du démarrage de quelques projets, est compensée par la progression de l'avancement des chantiers dans l'immobilier d'entreprise, plus 14 millions d'euros, et la hausse des activités de service, plus 53 millions d'euros, pour les raisons précédemment évoquées par Jean-Claude. En termes de perspectives, nous reconfirmons nos objectifs annuels, tels que nous l'avions indiqué à l'Investor Day. Être à plus de 14% par marché du logement dans un marché estimé à 130 000 lots, un chiffre d'affaires égal à celui de 2021, soit supérieur à 4 milliards 6, qui dépendra de l'excellent niveau de transformation des réservations en signature notariée d'ici la fin de l'année. Et bien sûr, une marge opérationnelle autour de 8%. Le pipeline reste toujours important, Véronique l'indiquait en début de séance. Nous finissons le trimestre avec un backlog de 6 milliards d'euros, l'équivalent de 2 ans de chiffre d'affaires. Je rappelle que ce backlog, c'est le chiffre d'affaires futur du groupe déjà sécurisé, c'est-à-dire des réservations non actées et la partie du chiffre d'affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés et en cours de construction. Et les marges relatives à ce backlog sont elles-mêmes déjà sécurisées par les coûts de construction et les budgets d'opération. Les projets que nous lancerons en commercialisation prochainement qui feront le chiffre d'affaires au-delà de l'année prochaine sont intégrés dans le potentiel d'activité, qui, vous le voyez, est toujours à un niveau élevé, plus de 15 milliards d'euros. Il est en progression de 4% par rapport au 31 décembre. Cela montre notre capacité à développer des fonciers, renouveler notre production sur les années futures, quel que soit l'environnement de marché. Et c'est un petit peu la conclusion de cette présentation. Et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez composer étoile 1 sur le clavier de votre téléphone. Étoile 1. La première question nous vient de la part d'Emmanuel Tarot de la société Gilbert Dupont. Allez-y, c'est à vous.
Oui, bonsoir, merci de prendre mes questions. En fait, j'en avais trois. La première, en fait, était sur le taux d'annulation des réservations, de vos réservations. Est-ce que ce serait possible d'avoir ce taux et surtout de savoir s'il s'apprécie, compte tenu peut-être d'une attitude des banques un peu plus restrictive. Ma deuxième question, c'était sur les investisseurs institutionnels dans le résidentiel. Donc manifestement, ça marche plutôt correctement pour vous, alors qu'on peut lire ici et là qu'il y a un certain attentisme de ces investisseurs vis-à-vis de la classe résidentielle avec la remontée des taux de capitalisation. Est-ce que pourriez nous faire un petit éclairage sur ce point? Et ma troisième question, c'était sur Angelotti. J'avais une petite série de questions. Est-ce que c'est possible d'avoir la marge, de savoir concrètement, est-ce qu'il faut consolider le chiffre d'affaires dès fin décembre, ou avec le jeu du PPA, ça va être c'est la reconnaissance du chiffre d'affaires dans votre compte va être plus loin. Et voilà. Et sur le prix, alors si j'ai bien compris, c'est 100 millions pour la moitié du capital, donc ça fait un prix d'acquisition de 200, c'est une fois le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est bien ça? Voilà. Merci.
Je prends les institutionnels. Si
tu veux. Oui, tout à fait. Donc, concernant les ventes aux particuliers, on note en effet une hausse du taux de désistement, mais qui est plutôt modérée, de l'ordre de plus de 10% par rapport à l'an dernier. Et en effet, cette hausse des désistements est principalement due à des refus de prêts qui sont plus importants que l'an dernier, mais qui restent dans des volumes acceptables et qui ne remettent pas en cause notre trajectoire ou capacité à commercialiser auprès des investisseurs particuliers.
Angelotti, peut-être qu'après je reprendrai les...
Donc sur Angelotti, on a une prévision de marge qui est supérieure aux marges Nexity du groupe, donc qui aura un impact relutif sur l'année prochaine, y compris après le PPA, qui en effet se traduira par un amortissement de la relation clientèle sur les 2 ans suivant l'acquisition, et qui viendra en moins des marges, mais qui même après cet effet laisseront pour Angelotti un élément relutif sur notre compte de résultat. Et donc l'impact sur le compte de résultat de cette entité qui sera consolidée en global, ça sera en effet sur 2022, 2 mois de chiffre d'affaires, novembre et décembre, et à partir de 2023, on reconnaîtra sur la totalité de l'année l'activité d'Angelotti. Et vous avez raison que si les 100 millions d'euros d'endettement qui correspondent à 55%, ça vous permet d'extrapoler un peu la valeur d'entreprise de l'ensemble.
Sur les institutionnels, en fait, ces institutionnels sont très larges. Hein. Il y a évidemment la Caisse des dépôts, il ne faut pas l'oublier, hein, qui achète des logements sociaux, mais aussi dans le livre. Il y a toute la sphère d'Action Logement, hein, qui est très large aussi, avec évidemment une ligne très connue, Provologis, 3F, qui sont très en demande. Nous, on travaille beaucoup également avec des bailleurs locaux et des acheteurs locaux. Ça, il y en a beaucoup sur le territoire. Et puis, comme on avait commencé tôt, on a bouclé, au fond, des opérations Alors, vous avez raison, avec deux types d'investisseurs institutionnels, enfin privés, dont l'un leveragé, donc ça, je pense qu'on les retrouvera moins l'année prochaine, et un autre assurantiel avec lequel on a bouclé une belle opération, deux belles opérations cette année, plutôt toujours dans le géré, hein, ce que je vous avais dit lors de l'Investor Day, sur ces clients-là, on est plutôt sur du géré, du co-living, des choses où il y a vraiment du service. Donc, ils sont là dans le moment, et puis, comme je vous l'ai dit, on s'y est pris très en avance. Hein. Nous, nos décisions, on les a prises dès le mois de juillet, donc voilà.
D'accord. Mais en fait, pour bien comprendre, les instituts privés dans vos réservations 9 mois, ça représente quoi?
En fait, on vous a donné les éléments dans le communiqué de presse. Hein. 43% de nos réservations sont faites avec des institutionnels, et là-dessus, on a à peu près les deux tiers qui sont avec des bailleurs sociaux et le dernier tiers sur des institutionnels plus classiques qui sont sur du logement libre, de la résidence gérée, de l'intermédiaire. Enfin, donc là, c'est vraiment tout type de produit qui est maintenant adressable pour ces institutionnels qui, comme Véronique vient de vous l'indiquer, sont très, très variés en implantation géographique, en capacité d'investissement par rapport à leur but de pourquoi ils investissent. Et c'est cette richesse et cette diversité qui nous permet justement de réussir à bien commercialiser nos produits. Et j'ajoute, sans détriment de baisse de marge par rapport à nos ambitions affichées dans nos comités d'engagement.
Ok, très clair. Merci beaucoup.
La question suivante nous vient de la part de Marilyn Faure de la Société Générale. Allez-y, c'est à vous.
Oui, bonsoir. J'avais une question à nouveau sur Angelotti. Donc, si je comprends bien, et excusez-moi de vous faire répéter, il n'y aura pas d'impact des PPA sur la reconnaissance du chiffre d'affaires sur la fin de l'exercice.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le PPA, en fait, c'est une relation clientèle qu'on reconnaît, et donc c'est un amortissement, donc c'est entre l'EBITDA et le résultat opérationnel. Donc ça pèse pour à peu près 3-4% du chiffre d'affaires sur les deux ans à venir, et donc pas d'impact sur le chiffre d'affaires, juste une minoration de la marge, mais même avec ce PPA, on aura des marges qui resteront supérieures aux marges de promotion Nexity.
Très clair, merci. Et j'aurais aimé que vous commentiez un petit peu ce qui se passe sur l'opération Montreuil. De toute façon, je pense que ce n'est pas dans votre backlog, mais quelle est l'incidence et comment vous voyez l'aboutissement de ce projet, à quelle échéance?
Pour l'instant, la ville, les autorités municipales nous demandent plutôt d'accélérer sur le projet. Donc, après qu'il y ait des débats politiques, c'est normal. Hein. Il y en a sur beaucoup des projets qu'on a sur le territoire. Hein. Donc,
C'est un projet emblématique qu'on a vraiment envie de réussir. En éléments financiers, c'est moins de 200 millions d'euros sur nos 15 milliards de potentiel. Donc, c'est pas signifiant dans nos résultats. Par contre, c'est vrai que ce projet qui a été lauréat dans la compétition internationale pour plus durable, normal qu'il puisse faire l'objet d'enjeux de discussion, mais je pense qu'il est aussi porteur d'une transformation de la ville qui nous rend plutôt optimistes sur la capacité à le mener à bien.
D'accord, ok. Bon, ça reste un petit projet, c'est le chiffre qui me manquait. Ok. Merci beaucoup.
Petit sans être ridicule. Avec le Crédit Agricole, ING, hein, on n'est pas tout seul dans le
chiffre. Oui, c'est ça. C'est en copromotion.
C'est notre code part, le chiffre qui vous a été donné.
D'accord. Okay. Merci beaucoup.
La prochaine question nous vient de la part de Christophe Chaput de la société Odo. Allez, monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup de prendre mes questions. J'en ai trois, s'il vous plaît. La première, c'est que je voulais revenir sur vos réservations en fait en valeur. Et donc, il y a un effet prix de 6% au mètre carré sur les ventes au bloc et 2% au détail. Est-ce qu'il y a une raison en fait pour que les ventes au bloc aient un prix de vente au mètre carré plus élevé par rapport aux ventes au détail. Et puis, je me souviens plus que vous aviez donné, en fait, la même indication au S1. Parce qu'en fait, vous aviez dit que sur les ventes en bloc, de mémoire, il y avait potentiellement, vous aviez différé des projets pour renégocier les prix. C'est cet effet-là que j'aimerais regarder, en fait. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était revenir, en fait, sur la croissance d'Angelotti, puisque en 2021, l'activité était en croissance de 20%, si je ne me trompe pas, 33% a priori en S2, en 2022, pardon. Et je voulais savoir si sur 2023, il fallait toujours tabler sur une croissance à deux chiffres, en fait, ou voilà, et revenir, en fait, peut-être sur les origines de cette croissance si soutenue. Troisième élément, c'est une précision. Vous avez dit que sur les deux derniers mois, en fait, les réservations en France dans le secteur baissaient de 30%, c'est ça?
Non, c'est pas sur septembre.
Je voulais revenir là-dessus. Voilà.
Vas-y.
Alors, si on reprend dans l'ordre, donc, sur l'évolution du montant des réservations, autant le chiffre permet d'être vu dans une longue durée sur les ventes aux individuels, parce qu'on a une base statistique qui est assez élevée, et donc on voit en effet un plus de 2% d'augmentation de nos prix de vente dans l'individuel, qui représente un peu, je vais dire, peut-être l'état du marché sur le neuf, qui reste très demandé et qui, avec sa performance énergétique supérieure à l'ancien, permet de mieux cranter un prix plus élevé. Sur les ventes en bloc, entre les ventes en social, les ventes intermédiaires et les typologies de produits, c'est important de faire passer le message qu'on vend bien et que c'est sans détriment de la marge. Le plus 8% est un agrégat très composite par rapport aux paniers vendus sur les 9 mois de l'année versus les 9 mois de l'année dernière, qu'on ne peut pas forcément le rattacher à telle ou telle vente. L'idée est plutôt de montrer que le pricing reste plutôt du côté du vendeur et que ça permet de vendre à un meilleur prix. Sur Angelotti, donc oui, je vous confirme que la trajectoire de croissance sur 2023 devrait aussi rester à deux chiffres. Pourquoi ? Ben parce que c'est un aménageur qui est en train de muer sur le métier de promoteur et donc qui, à partir de là, a une capacité à avoir une croissance de chiffre d'affaires assez forte par rapport à son pipeline de projets. Parce que justement, ce pipeline de projets est de bonne qualité et assez volumineux. Et c'est en partie ça qui a aussi conduit à choisir ce promoteur comme cible de croissance externe et qui va permettre d'asseoir un développement en progression sur les années suivantes. Et sur la dernière question, je passe la parole à Véronique.
Ce que je disais, c'est qu'il y a eu une communication, alors je ne sais plus, c'est il y a quelques jours, semaines, je ne sais pas, de l'Observatoire Crédit Logement CS1 qui est au fond plus actuel que plus directement sur ce qui se passe que la Banque de France, qui dit, je vous lis, parce que c'est pas moi, la chute de la production de crédit a été très rapide, avec en septembre une production mesurée au niveau trimestriel glissant en baisse de 26,8%, glissant annuel et un nombre de prêts de 27,7%. Donc, ce que l'on entend, c'est que la production est en train de baisser extrêmement vite. Ça, c'est juillet-août. Voilà, c'est les derniers chiffres qu'on a. Donc, je n'en déduis pas des effets sur le immédiat et direct sur le marché du logement, mais ça doit quand même se traduire quelque part.
C'est très clair. Merci beaucoup.
Sur le détail, en tout cas.
Nous n'avons plus de questions dans la file d'attente. Si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 de votre téléphone. Étoile 1 de votre téléphone. Dernier appel, si vous souhaitez poser une question, c'est étoile 1. Bon, eh bien, nous n'avons plus de questions dans la file d'attente. Je vais donc redonner la parole à Madame Véronique Bédag, directrice générale, pour conclure cette présentation.
Eh bien, merci beaucoup à vous tous. Bonne soirée. Donc, Domiti me glisse un petit papier en disant que nos résultats annuels, ce sera le 22 février 2023. C'est la prochaine fois qu'on vous revoit ? Eh bien, au mois de février, mais vous avez le droit de nous poser les questions et nous appeler. On est évidemment à votre disposition d'ici là. Très bonne soirée à tous. Au revoir.
Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez dès à présent vous déconnecter. Quant aux autres, veuillez rester connectés. Merci.